l'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître? Sinon avec notre propre connaissance.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Mercredi 29 janvier 2014, K comme kitsch par Valérie Haro. Le kitsch, une esthétique sans règles. Qui se souvient de la critique sans appel d'Herman Brock qui définissait l'attitude kitsch comme celle de « celui qui veut plaire à tout prix et au plus grand nombre ». Après avoir été ostracisé et remisé au rang de non-art tout au long de la modernité artistique, le kitsch, à la fin du XXe siècle, se voit attribuer pour sa subversion des anciens critères une reconnaissance inédite par l'industrie culturelle et le marché de l'art contemporain. Un tel renversement des critères serait-il une question à circonscrire au seul domaine de l'art et de l'esthétique ? Que le kitsch suscite émotion et plaisir esthétique n'est pas chose nouvelle, mais que le monde de l'art encense ce qu'il qualifiait de non-art autrefois témoigne d'une volonté d'éradiquer tout critère de hiérarchie des valeurs. Valérie Haro, professeure à l'université Paul Valéry à Montpellier 3, est membre du laboratoire RIRA 21 de l'UM 3 et directrice du master art plastique. Elle vous propose ce 11e rendez-vous de la 5e saison de l'Agora des Savoirs.
Bonsoir. Il m'a été donné aujourd'hui le plaisir de présenter ma collègue Valérie Haro, professeure des universités en arts plastiques à l'université de Montpellier 3, avec qui j'ai la chance de travailler en fraternité depuis 8 ans. Pour ce faire, et afin de ne pas me dévoyer de sa pensée, de ses engagements, de sa rigueur scientifique, je me suis appuyée sur son habilitation à diriger les recherches dans laquelle elle positionne ses partis pris de plasticienne, d'enseignante, de sociologue attachée aux théories critiques et théoricienne des arts plastiques. Diplômée de l'École nationale supérieure de l'École Boulle, diplômée d'architecture intérieure de l'École nationale supérieure des arts appliqués, agrégée en arts plastiques, Valérie Haro est une plasticienne. Elle considère que ce statut définit sa façon d'être dans son métier d'enseignant-chercheur et dans sa pratique personnelle, car elle est investie dans l'acte de fabrication. La poétique est la méthode qui commande son orientation. Définie par le philosophe Paul Valéry dans le cadre de la théorie littéraire et inscrite dans une philosophie de l'art par René Passeron, la poétique, en tant qu'étude scientifique et philosophique des conduites créatrices, porte sur l'instauration de l'œuvre et demande l'organisation de la pensée et son intervention dans le cours de la création. Cela veut dire que la question du sens se pose dans le même temps que le choix du médium, du style, de l'ambiance. Dans cette mesure, la pratique artistique doit se réfléchir dans le cadre d'approches scientifiques croisées, issues en particulier de l'histoire des arts contemporains et passés, de la sociologie de l'art, de l'anthropologie de l'art, de l'ethnologie de l'art. C'est une réflexion de cet ordre qui caractérise sa formation de chercheur, validée par une maîtrise d'ethnologie et un DEA de sociologie, ainsi qu'un doctorat en sciences de l'art. L'œuvre doit être interrogée sur le sens et les valeurs qu'elle porte, non seulement avant et après, mais surtout au cours de sa fabrication. C'est ce que Valérie Haro considère comme l'exigence première qui fonde la spécificité du métier de plasticien. L'art signifie une manière de représenter le monde et d'agir sur lui. Il convoque un imaginaire culturel, artistique, médiatique, politique et social en interrelation avec l'époque dans laquelle il s'intègre. Il engage un point de vue sur le monde. Valérie Haro considère que l'enjeu de sa mission d'enseignant-chercheur est de définir le statut de l'art dans la cité, de réfléchir sur les formes qui se créent et qui participent à construire des imaginaires, parce qu'une telle mission pédagogique et scientifique, vise, je la cite, « l'insertion de futurs citoyens dans la vie réelle, vise à favoriser l'attitude créatrice individuelle. Pour cela, il s'agit pour Valérie Arrault de permettre une prise de conscience et une connaissance des enjeux de la création contemporaine en développant une réflexion critique en art plastique et une activité ancrée dans des préoccupations sociétales. En quoi cet objet est-il de l'art ? Qu'est-ce que faire art ? Qu'est-ce qu'enseigner les arts plastiques à l'université ? L'enseignant-chercheur d'art plastique n'est pas l'enseignant-chercheur des sciences humaines appliquées à l'art qui promeut l'art une fois fait. Le chercheur en art plastique fait appel aux sciences humaines pour éclairer le contenu de l'art dans l'immédiateté du faire, dans la mesure où elles permettent de garantir la possibilité de donner un sens digne d'être investi dans la cité. Se centrer sur des questions situées dans le champ de l'art contemporain occidental et non occidental, à partir d'un terrain circonscrit à l'analyse plastique d'œuvres précises, lui ont permis de dévoiler les divers mécanismes de légitimation, c'est-à-dire d'évaluer dialectiquement le monopole exercé par les États-Unis et l'Europe sur les imaginaires artistiques, de mesurer le poids des institutions culturelles et artistiques et de la presse spécialisée dévouée au marché de l'art, de mesurer les formes historiques d'instrumentalisation, de mesurer le processus de récupération d'œuvres critiques au profit du nouvel esprit du temps, de mesurer enfin les incantations à la subversivité de l'art par les décideurs institutionnels. Ces préoccupations de chercheurs vont à l'encontre des convictions dominantes et consistent à élucider, je la cite, à élucider les enjeux relatifs aux œuvres d'avant-garde et à l'art dit contemporain tel qu'ils se sont mis en place sur une scène artistique mouvante et auprès des institutions d'État ou d'institutions privées. Elles se positionnent contre l'illusion d'un art pur, idéal, échappant à la marchandisation, car cet art, en réalité, est aliéné à la politique et à l'économie. Parce qu'elle vise, en tant qu'enseignant-chercheur, à former l'esprit critique et la créativité des futurs citoyens, une des tâches qu'elle s'emploie à accomplir est de saisir la mutation des temps, et en particulier d'éclaircir l'ambiguïté de l'art contemporain postmoderniste, qu'elle qualifie de patchwork, et dont le but est l'éclatement des frontières, exaltant, dans un même temps, tout et son contraire. Elle cherche à dévoiler les mécanismes d'un art instrumentalisé par l'idéologie marchande, système influent, implicite, invisible et aliénant. Elle cherche à dévoiler l'idéologie libérale désormais décomplexée et hégémonique. Pour finir de la présenter, j'ajouterai que loin de considérer la fin de l'art, elle fait acte de résistance dans sa pratique artistique, dans sa pensée pédagogique et scientifique, pour la construction d'un art critique et positif, apte à contredire la doxa postmoderne et libérale. Je la citerai en dernier lieu. L'essentiel est de déjouer avec le plus de conscience possible l'idéologie. L'essentiel est d'extraire les rêves enfouis, de leur donner vie. L'essentiel et de créer des images en résistance contre leur instrumentalisation en vue d'une autonomie à jamais inaccessible. Chère Valérie Arrault, je vous laisse la parole pour votre intervention intitulée « Cas comme kitsch, le kitsch, une esthétique sans règles ». Merci.
Chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs, que j'ai le plaisir de voir ce soir pour certains pour la première fois, merci à tous d'être venus si nombreux et permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs des conférences de l'Agora des Savoirs, dont Régis Penalva particulièrement, ainsi que la ville de Montpellier et la MSH de Montpellier également. Merci à tous d'organiser ces soirées tout à fait convaincante et qui aide, de mon point de vue, à ce que l'université rencontre la ville. Et ça, c'est tout à fait nécessaire. Donc ce soir, il va être question du kitsch. Mais pourquoi, après tout, s'intéresser au kitsch ? Si ce n'est de se demander quelle radiographie cette tendance esthétique livre-t-elle sur les industries du divertissement, le consumérisme global, le marché des désirs et les mentalités qu'elle façonne. Depuis la fin des années 1980, le kitsch a réussi à gagner les esprits, jusqu'à le voir être admiré, porté au pinacle, en tous les cas, reconnu comme une des tendances artistiques et esthétiques spécifiques de la société contemporaine postmoderne. Les œuvres kitsch, encensées par le monde de l'art, l'industrie culturelle et l'industrie du divertissement, témoignent d'une victoire que rien ne laissait présager, tant il fut déprécié et vilipendé jusqu'au milieu du siècle dernier. La raison en était son mauvais goût, son inauthenticité et ses accointances avec des régimes totalitaires. Quel pourrait être alors le sens d'un tel revirement et d'un tel engouement pour cette esthétique qu'un simple constat oblige à voir la fin de son bannissement jusqu'à son infiltration dans tous les pans de la création, se taillant un empire considérable dont on peut dire sans exagération qu'il est aujourd'hui planétaire. Trois exemples, j'ai choisi effectivement pour montrer que cette esthétique est kitsch est devenue planétaire. À commencer par l'architecture de Las Vegas. Celle-ci n'est-elle pas devenue un parangon architectural pour les grandes métropoles, avec leurs centres commerciaux qu'on connaît aux fausses places, fausses avenues, ponctuées de fausses fontaines, croulant sous de ruisselantes lumières. Las Vegas, spectaculaire et trépidante, serait-elle le modèle d'architecture émotionnelle, conçue à l'aune d'une industrie du divertissement et du loisir, où se mélangent et se consomment à l'envi logos, signes, publicités, technologies de pointe, mais non loin des tables de jeu. Donc, une image de Las Vegas, je pense que vous les connaissez, mais ce qui m'intéressait effectivement, c'est de montrer que, effectivement, cette architecture émotionnelle est devenue le parangon d'architecture de grandes métropoles, mais bien ailleurs, évidemment, qu'en Europe. Donc, voici juste quelques exemples. Et puis, je vais rester sur Shanghai. Autre création tout à fait importante qui me fait dire que cette esthétique est planétaire. Les œuvres de Jeff Koons n'ont-elles pas eu les honneurs du Palais Grassi, du canal de Venise? Ne sont-elles pas associées à l'image du musée Guggenheim de Bilbao, notamment avec son Poupi, grand chien fleuri, posté comme gardien à l'entrée? Et toujours et encore, pour ne parler que des œuvres kitsch de Jeff Koons, n'ont-elles pas été accueillies à grands frais dans les plus belles salles du château de Versailles en 2008? Troisième création tout à fait importante, les parcs d'attractions, Disneyland, Disney World, Euro Disney, ne sont-ils pas élevés au rang de symboles inégalés du divertissement, dès lors qu'ils sont considérés comme étant les plus appréciés et de ce fait concourent à la culture de masse enfantine? Qu'on le veuille ou non, qu'on soit ravi ou irrité, le kitsch a dorénavant acquis des titres de noblesse. Être exposé au château de Versailles, aux yeux du monde de l'art international, n'est-il pas dans la hiérarchie des légitimations une des plus grandes consécrations? Et surtout, n'est-il pas également un aveu des liens que l'esthétique entretient après tout avec le politique, l'économie et l'idéologie? Puisque nous sommes à Versailles, au temps de Louis XIV, le château n'était-il qu'un chef-d'œuvre artistique? Non, bien sûr, comme l'admet Jean-Jacques Ayagon lors de l'exposition Murakami en 2010, je le cite. Le château de Versailles a été conçu pour la représentation du pouvoir et aussi pour la fête comme lieu de bonheur. Fin de citation. C'est bien. Mais est-ce qu'il s'agit de savoir quel est le contenu de ce pouvoir que sert le kitsch? Pour ce faire, il est indispensable de contextualiser le phénomène dans son processus historique. Cette multiplication de succès invite plus que jamais à resituer son nouveau statut anthropologique, devenu, disons-le, honorable, dans l'actuel contexte général, c'est-à-dire culturel, politique, économique et idéologique. Lequel contexte général se caractérise aussi bien par une esthétisation de la vie quotidienne que par une crise des valeurs qui se traduit sur le plan artistique, et là, c'est tout à fait important, par une lutte entre paradigmes esthétiques relatifs à des visions du monde divergentes. Plutôt que de rester sur l'idée qu'il s'agirait d'une simple querelle de goût entre le bon et le mauvais, replaçons sa reconnaissance planétaire et donc son développement dans le sens de l'histoire et des combats qu'elle organise pour conquérir des esprits. Quel est alors le sens de cette conquête ? Il serait, selon un théoricien postmoderne, admirateur du kitsch, je le cite, il serait l'exploitation rationnelle et de manière généralisée des dimensions esthétiques imaginaires émotionnelles à des fins de profit et de conquête des marchés. Fin de citation. Et j'ajouterais personnellement qu'il le fait aux fins d'y adapter profondément les imaginaires. L'hypothèse de recherche que je soutiens est de penser que le kitsch, grandement propulsé par l'industrie culturelle, le marché de l'art et l'industrie du divertissement, ne l'est pas seulement pour sa provocation irrévérencieuse, ludique, désinhibante, décomplexée, oh, hédoniste, émotionnelle, favorable éventuellement au mauvais goût, pour le plaisir d'être fun, in, top ou hype. Mais aussi, il l'est pour son rôle galvanisant et moteur, confortant de manière douce et insidieuse l'idéologie du libéralisme. Notamment en faisant subrepticement l'apologie d'une esthétique sans règles. Tout à l'image de l'esprit de la postmodernité libérale, dont il faut mentionner peut-être encore, mais vous le savez déjà, la déréglementation qui est devenue un principe régissant les choix politiques de la nouvelle économie et ce que d'aucuns appellent la mondialisation. Après cette longue présentation un peu générale, permettez-moi quand même néanmoins de faire une parenthèse avant de m'attacher à l'actuelle mission cachée du kitsch et à ses enjeux. Je voudrais exposer très brièvement l'étymologie du mot kitsch pour ensuite reprendre le fil de mon propos. Le mot est d'origine allemande, il fut introduit en 1860. Il serait issu soit, premièrement, du verbe allemand « verkischen », qui signifie « brader »,« vendre dessous du prix » ou encore « vendre quelque chose à la place de ce qui avait été demandé ». Ou, deuxième verbe, le verbe « kitchen », qui signifie « ramasser des déchets dans la rue ». L'étymologie, bien qu'incertaine, indique qu'il ne s'agit pas d'une esthétique qui aurait des ambitions transcendantales, qu'il s'agit bien d'objets faits de briques et de brocs, ou même qu'il y aurait là de la roublardise. De manière générale, chacun sait de quoi il retourne quand il juge, en fin de compte, un objet kitsch. Même si au fond, les raisons de son jugement de goût restent bancales, car le fait de ne s'en tenir qu'à la forme fait éprouver un sentiment d'incertitude. Quant aux définitions du dictionnaire, elle le caractérise surtout par l'idée qu'un objet kitsch serait une reproduction de mauvais goût, voire de franche vulgarité. J'ajouterai tout de suite que le mauvais goût dont il est taxé provient de ses juxtapositions d'éléments hétéroclites, de ses assemblages éclectiques, de ses surenchères formelles, telles ses copies d'œuvres ou chefs-d'œuvre classiques, réalisés dans des matériaux dégradés comme une statue d'Aphrodite, par exemple, imaginée moulée en béton ou en poudre de ciment, destinée à orner soit un jardin, soit un intérieur, un restaurant, un salon de beauté ou un bar branché, ça se fait beaucoup. Prenons dès à présent quelques minutes pour prendre connaissance d'une petite iconographie d'objets kitsch et attardons-nous sur ces structures formelles. Sur ces structures formelles qui sont tout à fait significatives, afin de constater que son principe de fabrication est fondé sur l'hétérogénéité et le mixage de stéréotypes émanant de diverses cultures et domaines, qu'ils fussent historiques, religieux ou pornographiques. Sans principe et sans état d'âme, le kitsch fréquente aussi bien le monde des antiquaires qu'il s'inspire de productions culturelles extra-artistiques. L'exemple, effectivement, que je vous ai donné tout à l'heure, d'une statue moulée et le constat objectif que le kitsch puise dans tous les domaines sans exception ni hiérarchie permet d'identifier que le kitsch se caractérise par une structure perméable, labile, ne souscrivant à aucune règle et surtout ne s'imposant aucune limite. Quelques images, mais celles-là, je les ai voulues justement très, très communes pour conforter votre idée de ce qu'est le kitsch. Des t-shirts, comme vous le voyez. Reprenons donc, après juste ce rappel, reprenons mon propos. On peut retenir effectivement que si ces qualités formelles marquées du sceau de l'inauthentique et du frelaté posent des questions sur sa conception, elle renvoie aussi à la question de son usage. En effet, qui conçoit et qui consomme des objets kitsch? Abraham Molls, en travaillant sur la psychologie du kitsch, et notamment sur le concepteur et le consommateur, en est parvenu à l'idée, je le cite, que le kitsch précède et outrepasse ses supports. C'est un état d'esprit qui éventuellement se cristallise dans les objets. Fin de citation. Donc, il faut retenir, pour Molls, et j'en ferai mienne cette citation et cette définition, c'est d'abord un état d'esprit. Fort de cette définition, donc, plutôt que de déplorer sempiternellement la mièvrerie de cette esthétique, il convient de garder en mémoire que l'objet, le gadget, l'architecture sont porteurs d'un état d'esprit. Et donc de signes que l'on sait être associé à des valeurs, lesquelles induisent nécessairement des comportements et des attitudes qui fondent ce que Abraham Molls appelait un art de vivre. Donc, un état d'esprit? Tiens donc, sortons du piège du formalisme et de la diversité de formes sous laquelle le kitsch peut se manifester. Quittons ces rives qui nous attacheraient trop à sa forme et qui nous focalisent sur sa piètre qualité artistique, son manque d'originalité, son inutilité, du moins tant que ses caractères étaient définis dans le contexte du modernisme. Préoccupons-nous que de l'essentiel, de ce qui reste, de l'essence du kitsch, c'est-à-dire de l'état d'esprit, des mentalités auxquelles le kitsch contribue, pour se demander quel peut être sa fonction stratégique et idéologique aujourd'hui dans le paradigme postmoderne. Sur sa fonction idéologique, que je souligne être la plus essentielle de toutes ses fonctions, les analyses qui eurent trait à l'étude de son esprit n'ont pas manqué au cours de l'Odyssée du kitsch. Hermann Broch, Abraham Molls, Clement Greenberg, Gillo Dorfless, Milan Kundera, Jean Baudrillard, Umberto Eco, Eva Legrand, tous ces éminents penseurs, dans le sillage de l'école de Francfort, tirèrent des conclusions unanimes, l'assignant au purgatoire, jusque dans les années 60. Rappelons ici la position du philosophe Théodore d'Adorno, grand contempteur du kitsch, par laquelle il intimait de s'en débarrasser en précisant que c'était la tâche ardue du présent. Ce qui en dit long sur la condamnation dont le Kitsch fut lesté. Chacun de ses détracteurs décelèrent dans cette esthétique Kitsch une inauthenticité, c'est-à-dire une intériorisation d'idéologies rattachées à des croyances et à des mythes d'un passé révolu et par conséquent liées à des valeurs obsolètes. Un bon exemple d'inauthenticité qui a toujours cours aujourd'hui m'ont conduit à la citer, puisqu'il me faut un exemple pour que ce soit bien clair. Exemple, les robes blanches de mariée, agrémentées d'un long voile, dont la tradition culturelle tient autant des robes de princesse issues de contes de fées que des valeurs de l'Église du XIXe siècle. En mobilisant une réaction nostalgique, le kitsch autoriserait, semble-t-il, une soumission de l'homme aux objets prélevés dans l'histoire passée, devenus indépendants de leur sens originel. Tout à l'heure, j'ai fait intentionnellement, je vous avais choisi justement cette Joconde dans une horloge ou dans une montre. Et effectivement, pour beaucoup, le sens échappe à celui, effectivement, qui achètera cette montre ou cette horloge. Donc, on voit bien qu'il s'agit là de ressusciter artificiellement un objet, mais dans un recyclage déconnecté, autosatisfaisant. Or, en pleine modernité artistique, qui se situe dans la première moitié du XXe siècle, on sait que le kitsch ne pouvait en aucun cas être admis comme l'esthétique ou la philosophie de l'époque. En effet, celle-ci ne reconnaissait son essence que dans l'actualité de sa technique, de sa science et de son économie, et par conséquent, dans l'esprit rationnel qui la caractérisait et la différenciait des précédentes. Le kitsch, en fin de compte, fut analysé comme étant hostile aux valeurs transcendantes qui animaient l'idée de progrès et qui étaient inhérentes au temps moderne. Son goût pour le passé lui dénia toute pertinence d'accord avec le temps présent. Son attitude favorable au ressassement des formes stéréotypées au motif que le kitsch veut plaire à tout prix et au plus grand nombre. Voilà ce que disait Hermann Brock, pardonnez-moi, et plus tard Milan Kundera. Voici également ce qui faisait effectivement ce désaccord chronologique avec le temps contemporain. C'est la raison pour laquelle il fut connoté négativement. C'est pourquoi, et c'est le plus important, son but fut interprété comme étant une corruption des esprits afin que n'advienne pas une société créative qui, elle, entendait se vouer entièrement à la recherche de la vérité de son temps présent et à la préparation de son avenir, compris comme commandé par le progrès. En dépit du poids historique et de l'autorité de ces oukases, le sociologue Jean Duvigneau proposa une analyse du statut du kitsch dans la préface du livre de Gillot d'Orfless intitulé « Le marché des choses inutiles ». Et il le situa à l'opposé de la diabolisation qui en avait été faite. Il est vrai que quand il écrit effectivement, quand il fait cette analyse, en fait, on est déjà en 1978. Et à partir de là, effectivement, tout le monde sait qu'on n'est plus dans les mêmes années et que les choses avaient considérablement changé depuis ces anathèmes lancés dans des contextes historiques différents. Le sociologue se risqua alors à un nouveau regard et proposa une approche nouvelle, laquelle soutint que, je le cite, « le kitsch doit se voir comme une dimension esthétique de l'imaginaire de notre époque. Les motifs du maintien de cet ostracisme auraient pu laisser croire à une pensée mécanistique, si ce n'est dogmatique, si Jean Duvigneau n'avait pas envisagé les productions kitsch comme des signes et des symptômes de l'imaginaire de l'actuelle civilisation. Or, Jean Duvigneau précise que celles-ci, je le cite, ne se fondent plus sur aucun absolu et confond l'authentique et le frelaté, la création et l'imitation. Très perspicace et attentif à l'esprit du temps dominant, Jean Duvigneau tire les conséquences de ce qu'il avance et va jusqu'à affirmer, je le cite, « Il n'existe plus une seule esthétique dont le kitsch serait l'opposition dégradante et dégradée. » Fin de citation. Cette appréciation inédite jette assurément une lumière neuve sur les rapports que le kitsch entretient désormais avec l'actuel contexte culturel. Et pour l'heure, on peut dire que cette appréciation n'est pas sans conséquences fécondes pour la compréhension de l'engouement que suscite le kitsch aujourd'hui. Sur le plan méthodologique, il apporte la démonstration que la variation du jugement de goût, pensée comme étant toujours individuelle et subjectif, dépend également de l'évolution de facteurs culturels extérieurs, des goûts des dominants et des logiques productives. Et surtout, il signale que les temps ont changé, qu'ils ne sont pas figés dans les années d'entre les deux guerres. Et sans doute que ce serait une grave erreur de penser les phénomènes artistiques avec les concepts de l'époque précédente. Le nouvel esprit du temps postmoderne, auquel faisait alors allusion Jean Duvigneau, sans qu'il puisse le nommer, car le concept de postmoderne n'avait pas encore tout à fait cours, tout du moins en France, en 1978. Mais ce concept a passablement développé un nouveau mode de production culturelle capitaliste et un nouvel imaginaire, bref, une nouvelle civilisation. Ce sont ces nouvelles mentalités et nouveaux modes de production qui permettent de comprendre comment le kitsch, apparu au 19e à l'âge industriel, connaît depuis les années 60 un développement exponentiel, dont il convient de voir qu'il s'incarne avec la plus parfaite adéquation avec l'idéologie postmoderne. Quelles que soient les nuances et les détours empruntés, la vérité du temps est postmoderne. La correspondance si fréquente entre les valeurs de la société et de la culture permet d'avancer qu'il s'agit là d'une homologie structurale, ainsi que le disait Lucien Goldman. Il est vrai, dans un autre contexte, pour désigner les profondes affinités de vision du monde entretenues par des catégories relevant d'ordres apparemment distincts et caractérisant l'esprit dominant d'un temps. Force est de constater que cette nouvelle civilisation n'est plus celle où la culture de masse, industrielle et la culture savante produisaient des œuvres dans des sphères séparées, tout en faisant valoir leurs qualités respectives, lesquelles ont donné lieu à des oppositions binaires historiques que tout le monde connaît, comme l'art et l'industrie, art opposé à l'industrie, art et divertissement, art opposé à divertissement, art et marchandisation, art opposé à marchandisation. En effet, tous les modes de production, de diffusion et de consommation sont désormais imprégnés d'esthétisation et qu'il correspond bien à cette phase particulière du développement capitaliste qu'on reliera au bouleversement de l'organisation du monde, aux avancées technoscientifiques et aux mentalités sociales. Des bouleversements si importants qu'ils ont affecté toute la vie contemporaine et ont régulièrement produit des conflits, non seulement dans l'organisation de l'appareil technique du travail, comme l'ont montré avec éloquence, pardonnez-moi, Luc Boltanski et Eve Ciapello, mais également dans les rapports sociaux. Effectivement, si je vous dis augmentation des cadences, flexibilité du travail, mobilité, ce sont des mots qui sonnent comme s'ils étaient de notre temps, parce qu'ils le sont justement. Également, j'ai parlé de bouleversements dans les rapports sociaux, concurrence accrue, licenciement, précarité, accentuation des inégalités sociales. Autant dire que ces changements ont provoqué et continuent de créer des tensions sociales, des crises. Et comme le dit Charles Menman, psychiatre, psychanalyste, une nouvelle économie psychique. Or, pour assurer son accomplissement, le projet du postmodernisme, en osmose avec le développement du capitalisme, a envisagé la nécessité de supprimer tout motif de discorde, qui autrefois était essentiellement déterminé par la volonté d'imposer autoritairement des modes de vie, des modes de pensée et des modes de consommation homogènes. Après avoir tiré le bilan des coercitions tayloristes modernistes des années 1950, des totalitarismes de la première moitié du XXe siècle et par ailleurs stimulé par le versant libertaire de mai 68, le postmodernisme déclare alors refuser de reporter le bonheur individuel aux générations futures, refuser de soumettre les individus concrets aux abstractions et surtout refuser de sacrifier le présent à toutes les illusions transcendantales de la modernité. Par l'intermédiaire de décideurs institutionnels privés ou publics, en fin de compte, qui appartiennent à l'industrie culturelle, au marché de l'art, à l'industrie du divertissement, le postmodernisme considère qu'une plus grande liberté individuelle doit prévaloir et de ce fait s'emploie sans cesse à transformer les mentalités encore trop imprégnées des paradigmes esthético-politiques modernes et prémodernes. Pour ce faire, il lui faut poursuivre cette tendance en déréglementant tous les codes acquis dans les secteurs de l'existence. Mais cette dérégulation culturelle, pour peu qu'elle puisse se diffuser avec fluidité dans les rapports sociaux, doit s'accomplir par l'acte d'une communion, d'un être ensemble, réel ou virtuel, au cours duquel des occasions de fun, de ludisme et d'hédonisme sont données à vivre tout de suite et maintenant. Voilà qui assurément doit remplacer le vide laissé par la fin de l'histoire, c'est-à-dire par la fin des idéaux politiques. Il n'est qu'à voir ces petits bonheurs qui sont si bien assurés d'exister, ou tout du moins bien plus assurés d'exister que des lendemains qui chantent. Dans une grande diversité de styles, on n'en compte plus les dispositifs ludiques de l'être ensemble. Insouciant, léger, fait de rêves et d'émotions, qu'offrent abondamment les parcs de loisirs, les jeux télévisés, les jeux en ligne, les jeux sur tablette, les événements sportifs, les musiques de variété, les vidéoclips, les concerts hyper sophistiqués, les rêves parties, les expositions décoiffantes, les séries télévisées, tout ce qui constitue, en fin de compte, le spectacle généralisé de la mondialisation culturelle marchande. À la tragédie de la lutte des classes, le postmodernisme s'efforce de substituer l'heureux œcuménisme du vide. Autrement dit, une mentalité collective se préoccupant avant tout de son plaisir, de son ego, d'autant plus libre qu'elle n'est assujettie à rien d'autre et bien sûr en aucun cas à des principes moraux ou politiques. Le ludique est désormais le critère commandant tout. On ne peut dès lors qu'être étonné qu'il règne aussi dans les arts. Refusant tout idéal, que ce soit celui des classiques ou des modernes, le projet postmoderne implique que tout doit devenir sans gravité, au sens propre comme au sens figuré. Une telle position permet une liberté autrefois interdite. Rien n'étant grave, rien n'étant transcendantal, Il devient alors possible de procéder à des mixages de symboles, de coller du profane sur du sacré, de se livrer à des anachronismes décomplexés, dont, comme ceux par exemple dont Jean-Jacques Ayagon s'est fait une spécialité en organisant par exemple des expositions déconcertantes, invitant le kitsch au château de Versailles, et pour lesquelles il préconise de déceler, je le cite, une grande concordance entre la jubilation du monument et celle des œuvres de Murakami. Fin de citation. Ce qui demande, continue-t-il d'avouer, je le cite, de savoir se dépouiller de ses préjugés. Fin de citation. Ne vénérant aucun principe supérieur, qu'il soit éthique, culturel ou écologique, on comprend que les principes de hiérarchie, comme les valeurs de coopération, d'éducation, de respect de l'environnement, que les grands idéaux politiques, les grands récits, comme les appelait le philosophe Jean-François Lyotard, tout autant que la « common decency », cette petite morale ou cette morale des petites classes sociales espérée par George Orwell, comme nous le rappelle Jean-Claude Michéa, eh bien on comprend que tout soit réfuté et remisé au rang de critères poussiéreux, d'archaïsmes intellectuels et de ringardises quasi réactionnaires. Ces valeurs démodées propres au grand récit doivent alors céder la place aux valeurs d'échange, possédant l'immense avantage d'être sémantiquement interchangeable et non discriminatoire. Puisque tout doit être sans gravité, tout doit être équivalent. L'écrevisse. Alors, où il est mon écrevisse? Le voilà. Donc, tout doit être sans gravité, tout doit être équivalent. L'écrevisse en aluminium de Jeff Koons et les peintures de Charles Brun. La conception de la galerie des glaces et celle des mangas de Murakami. Les buts marchands du casino hôtel Le Luxor à Las Vegas et ceux d'une civilisation incarnée dans la pyramide de Khéops. L'abolition des hiérarchies culturelles doit signer la fin des opprobes, la fin des excommunications, des ostracismes, des condamnations fondées sur le ségrégationnisme critère de qualité. En fin de compte, dans ce procès historique postmoderne d'interchangeabilité, de non-gravité et de ludisme, tout doit s'équivaloir. Et le plus efficace des remèdes aux résistances des anciens et des modernes est d'éduquer à l'indifférence. Indifférence non pas au sens où rien n'a d'importance, mais tout aurait la même importance. Le postmodernisme kitsch ne prétend pas que les objets du monde n'ont pas d'importance. Ce serait dire qu'il obéit lui-même à une autre échelle discriminante de valeur, ce qu'il récuse. Mais pour obtenir le même résultat, simultanément à la substitution de la marchandise aux idéaux, comme l'a montré encore Jean-Claude Michéa, il préfère laisser penser que tout est également important. Les mythes fondateurs, les mythes politiques, comme les mythes commerciaux. Autant dire qu'il s'agit d'une stratégie particulièrement efficace pour éviter les conflits idéologiques et faire désormais refuser les différences discriminatoires inhérentes au paradigme précédent. N'est-ce pas en fait la meilleure garantie pour éviter les guerres de valeurs antagonistes et dévier les conflits frontaux entre les valeurs de l'éducation, de respect de l'environnement, de justice, de santé, et les valeurs du libéralisme qui défendent l'hédonisme, les plaisirs des sens, la recherche d'expérience, en vue de réussir l'accomplissement de soi. Plus rien ne doit avoir de statut sacré, afin d'éliminer tout motif de belligérance déchirant trop souvent le monde. Pour la civilisation actuellement gagnante du relativisme, L'exposition au château de Versailles suppute que l'œuvre de Jeff Koons vaut bien celle de Lebrun. Comme d'un autre côté, la pyramide de Khéops de l'Égypte antique vaut bien le recyclage fantaisiste de l'hôtel casino Le Luxor à Las Vegas. Par là, s'opère incontestablement la destitution partout au travail des hiérarchies habituelles qui discriminaient genres et sujets selon la hauteur de leur contenu transcendant et la qualité de travail technique. Face aux étendards de ce nouvel art fièrement arboré par ces musées si légitimes et ces événements culturels si encensés, on voit bien que tout peut désormais entrer dans les consécrations qu'ils instituent. L'insignifiant, le futile, l'amusant, le vil, l'obscène, tout concourt maintenant à égalité avec le noble, le majestueux, l'exceptionnel, le gracieux. Enfin, j'en terminerai en soulignant combien la stratégie du kitsch est en osmose avec celle du libéralisme libertaire, valorisant l'hédonisme comme but essentiel unique. Il est incontestable que pour Jeff Koons, l'artiste devenu kitschmensch, ce qui compte en effet, ce n'est plus le plaisir de la raison qui reliait les causes et les effets dans un système cohérent, finalisé aux glorieuses ambitions comme celles auxquelles obéissaient les classiques. Mais il n'observe pas plus et pas davantage les idéaux graves tels que les goûtaient les modernes. Non, ce qui compte, c'est d'abord de faire appel aux sentiments élémentaires universels, en manipulant avec ludisme et hédonisme les formes foisonnantes de l'industrie culturelle. L'attitude de l'artiste kitsch n'a décidément plus rien à voir avec la scientificité froide telle qu'elle était en honneur dans l'art minimal et l'art conceptuel. Dans le monde artistique de Jeff Koons, à l'inverse des classiques et des modernes, l'insouciance, le sentimentalisme, la désinvolture, la subjectivité, l'antimorale sont des guides privilégiés de la créativité voulant historiquement se libérer des entraves, des règles et des codes. À la question « La gravité et le sérieux sont-ils des limites de l'art ?» Le postmodernisme répond qu'il s'agit là de contraintes d'un autre temps désormais caduque. Et ceci d'autant plus que par ailleurs, le monde entier est engagé dans une course à la libération du moi par les techniques du nouveau contrôle social. À la sévérité de l'ordre social et artistique rigoriste, succède de plus en plus la fantaisie, la diversification des œuvres et des sentiments, la libération personnelle sous le primat prioritaire du plaisir. La société postmoderne, qui se veut ouverte, tolérante, permissive, réhabilite dans l'art des expériences esthétiques sentimentalistes, autrefois prohibées, telles que celles que le monde de l'art de cette époque reprochait au kitsch d'éveiller. L'une de ces expériences esthétiques majeures, particulièrement choyée par le kitsch, étant procurée par l'empathie relative aux souvenirs enfantins. C'est même essentiellement par ce biais que le kitsch combat les limites habituelles qui entravent l'art dans sa marche vers la liberté du moi absolu, ce narcissisme si bien décrit par Christopher Larch, et dont a besoin infiniment l'industrie culturelle. On ne s'étonnera donc pas du succès obtenu par les représentations en volume d'animaux, en plastique, en acier chromé, en porcelaine, en bois peint ou en taupière fleurie. Ces effigies de jouets animaliers n'appartiennent-ils pas au monde inversé de cette civilisation adulte si contraignante ? À ce non-culturel tyrannique, à la spontanéité perdue dont l'adulte contemporain a la nostalgie. Quoi de mieux alors que de réveiller les expériences esthétiques de l'enfance par la création des objets les plus naïfs? Si les images et les effigies animalières de Kuntz induisent des sentiments et des expériences esthétiques, elles ne le font que dans la mesure où elles sont positives et indifférentes, puisqu'elles sont en relation avec la nouvelle mentalité instruite par une industrie culturelle se donnant pour but historique de convertir tous les désirs en objets attractifs et accessibles à tous. Il était donc inévitable que les sentiments et les émotions qu'ont procuré les jouets à l'effigie des animaux au monde de l'enfance jouissent, dans celui de l'art postmoderne, d'un statut esthétique particulier, en tant que objet de compensation et de formation à la société souple, flexible et mobile, tant exigée par le libéralisme libertaire. On ne s'y trompera pas. Le rôle du kitsch de James Kuntz et de bien d'autres œuvres artistiques n'est pas prioritairement d'amuser les enfants, mais en utilisant les recettes qu'ils goûtent, on peut constater que le processus du narcissisme libéral s'accomplit en étendant l'influence du kitsch à l'intérieur et à l'extérieur du territoire de l'art. Il s'agit, autrement dit, de gagner des places en faveur, en sa faveur, et d'irradier dans tous les autres territoires de ce monde, d'autant plus que cette stratégie emporte l'adhésion du public non averti. Qui, en fin de compte, n'est pas sensible aux grands poupies, fleuries ou en taupière? Conclusion. Premièrement, j'ai cité à plusieurs reprises Jean-Claude Michéa. Certains ici, bien sûr, montpelliérains, le connaissent. Et connaissent surtout ses écrits. Le philosophe fait de mon point de vue une clairvoyante observation sur le mouvement général des sociétés occidentales. En le paraphrasant, il m'importe de souligner combien le mouvement historique qui transforme en profondeur l'histoire de l'art doit être fondamentalement compris comme l'accomplissement logique du libéralisme. Dans la mesure où il est inscrit dans les gènes de la création artistique en tant que celui-ci condense les valeurs d'émancipation envers toute règle coercitive des désirs de l'individu. Deuxièmement, ce refus des règles pour que l'option libérale s'accomplisse entraîne une société, la nôtre, qui, par compensation des rudesses de la vie, se réfugie volontiers dans le monde de l'enfance, dans des mondes insouciants, en tous les cas dans des matrices éphémères, virtuelles ou imaginaires, qui la ramènent au stade narcissique. C'est là, à mon avis, la tâche historique du kitsch. Je vous remercie.
C'était l'Agora des savoirs.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Des conférences ouvertes à tous.
La science est un discours.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM 93.9.